Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on discute du monde diplomatique sur trois points. On va d'abord faire un peu l'histoire du monde diplomatique, et je vous expliquerai pourquoi ça vaut le coup de raconter l'histoire du monde diplomatique, parce que c'est une histoire qui vient de loin. Ensuite, je vous dirai quelle est la situation du monde diplomatique aujourd'hui. Et puis, je vous parlerai en dernier point des dernières innovations du monde diplomatique. Alors, j'ai pour habitude de commencer mes interventions par une petite phrase de Condorcet que je vous propose, puisqu'elle s'inscrit parfaitement dans la soirée, puisqu'on parle également aussi d'éducation populaire et d'auto-éducation populaire. Donc cette phrase, c'est celle-ci, c'est « Le suffrage universel peut conduire à la dictature des imbéciles lorsqu'il n'est pas assorti d'une instruction publique éclairant les esprits. » Voilà. C'est aussi la mission qu'on se donne pour les amis du monde diplomatique, qui consiste à relayer justement le travail du monde diplomatique. Et nous, les amis du monde diplomatique, on démultiplie ce travail en organisant des rencontres, des conférences, des cafés diplo, des débats après les projections de cinéma. Quelle est l'histoire du monde diplomatique? Alors, l'histoire commence en 1944, quand le général de Gaulle veut voir naître un quotidien de qualité qui soit le fer de lance du rayonnement de la politique de la France et de sa culture. Hubert Beuve-Méry donc accepte de prendre la tête de cette entreprise, et le journal Le Monde, parce que les choses démarrent de là, le journal Le Monde paraît pour la première fois le 11 décembre 1944. Alors Hubert Beuve-Méry a toujours été partisan d'un journal au nombre de pages limité. Lui, il estime que la rédaction a raté son but quand l'acheteur du journal ne le lit pas entièrement, de la première à la dernière page. Or, dans les années 1950, la politique étrangère est foisonnante et débordante, et elle occupe donc de plus en plus de place, de plus en plus de pages à l'intérieur du journal Le Monde. Alors, pour donner toute sa place à la politique étrangère, Hubert Beuve-Méry songe alors à créer un mensuel qui soit entièrement dédié à la politique étrangère. Et c'est ainsi que naît Le Monde diplomatique, et on est le 2 mai 1954. Donc à l'origine, la ligne éditoriale du Monde diplomatique épouse parfaitement la ligne éditoriale du journal Le Monde. Mais les choses vont commencer à changer en 1973 avec l'arrivée de Claude Julien à la tête du journal Le Monde. Alors, Claude Julien, c'est une très très forte personnalité, une personnalité importante, et c'est vraiment lui qui a donné la dimension du journal tel qu'il est actuellement. Il a vraiment marqué de son empreinte le monde diplomatique. Alors, Claude Julien est un excellent connaisseur des États-Unis, ainsi que des pays d'Amérique, les pays du Sud, Amérique latine et l'Afrique. L'implantation du monde diplo en Amérique latine, dans tous les pays d'Amérique latine, on le doit en particulier à Claude Julien. Alors, Claude Julien ouvre également aussi les colonnes du journal à des nouveaux sujets tels que l'économie, la culture, la société, les idées. Et enfin, il instaure pour la première fois une certaine autonomie de la ligne éditoriale en faisant appel à des rédacteurs qui n'appartiennent pas au journal Le Monde. Jusqu'à présent, tous les gens qui écrivaient dans le monde diplomatique étaient du personnel, des journalistes du Monde, et Claude Julien donc va faire appel à des rédacteurs étrangers. Alors, la politique rédactionnelle de Claude Julien va se traduire immédiatement par un progrès très très fort, une progression très très forte de la diffusion et de la vente du journal. Donc il y aura des résultats très très importants. Mais le diplo reste quand même sous la bannière du journal Le Monde, dont il est simplement un simple service. Claude Julien, par exemple, n'a que le titre de rédacteur en chef. Le directeur officiel est Jacques Fauvet, donc, qui a succédé à Hubert Beuve-Méry, qui est parti à la retraite. Donc c'est Jacques Fauvet qui est le directeur du Monde Diplo. En 1980, Claude Julien, alors coup de théâtre assez extraordinaire, Claude Julien, donc, qui est du Diplo, est élu par la Société des rédacteurs du Monde Diplo pour succéder à Jacques Fauvet et prendre la direction du journal Le Monde. Donc il prendrait la totalité de la direction du groupe. Mais naturellement, ça ne plaît pas à un certain nombre de personnes. Et avant même son entrée en fonction, Claude Julien est empêché de prendre la direction du groupe Le Monde. C'est à ce moment-là que les tensions entre le monde diplomatique et Le Monde sont vraiment au plus fort et au point qu'elles marqueront pour toujours les relations entre le monde diplomatique et Le Monde. Mais Jacques Fauvet n'a pas dit son dernier mot. Avant de partir à la retraite, dans le but justement de préserver l'autonomie rédactionnelle du Diplo et de le mettre à l'abri d'un certain nombre d'ambitions, de personnalités du monde, il nomme directeur du monde diplomatique. Ça veut dire qu'à l'intérieur du journal, d'un même journal, il y a deux titres, Le Monde diplomatique et Le Monde, avec chacun sa propre rédaction, qui sont parfaitement étanches l'une par rapport à l'autre. Donc là, on commence à poser les premières bases de l'indépendance rédactionnelle du Diplo. C'est Jacques Fauvet qui nomme Claude Julien. Voilà. Là, on est dans les années 90, début des années 90. Mais l'équipe du Diplo, autour de Claude Julien, ne se contente pas de l'indépendance rédactionnelle du journal. Elle s'efforce, au début des années 90, justement, d'obtenir également son autonomie de gestion. Et celle-ci pourra se matérialiser en 1995, avec le legs que fera Günther Holzmann au journal Le Diplo. Donc là aussi, c'est quelqu'un qui a compté, puisqu'il a été le déclencheur de l'indépendance de gestion financière du monde diplomatique. Le Diplo donc se retrouve dans une situation un peu paradoxale, puisque sa rédaction est indépendante, sa gestion relève de son seul ressort, mais il reste incrusté juridiquement dans le journal Le Monde. En 96, le monde diplomatique demande et obtient auprès du groupe Le Monde sa filialisation. Donc Le Monde accepte de céder 49% des parts du capital de la nouvelle société qui a été créée, la filiale, aux deux autres actionnaires, donc la fondation Günther Holzmann, qui rassemble donc maintenant tous les personnels travaillant au monde diplomatique, et le deuxième actionnaire, ce sont les amis du monde diplomatique. Rassembler, ce qu'il faut savoir, c'est que rassembler ces deux associations, donc Günther Holzmann et les amis du monde diplomatique, ont une forte minorité de blocage, qui interdit donc toute décision qui pourrait nuire à l'indépendance du journal. Et donc voilà comment, en 42 ans, le monde diplomatique a réussi à obtenir son indépendance rédactionnelle, son autonomie de gestion et son indépendance juridique. Alors, pour terminer la situation, le monde diplomatique est propriétaire des locaux qu'il occupe dans le 13e arrondissement de Paris. C'est une ancienne usine qui est en U, qui a été transformée en immeuble de bureau. Les amis du monde diplomatique ont d'ailleurs une aile dans ces bâtiments. Le Diplo n'a plus aucun endettement depuis 2013, ce qui veut dire qu'on a une situation qui est parfaitement saine. C'est d'ailleurs les bonnes nouvelles que je vous donnerai ce soir, parce que dans un contexte où vous entendez tous que la presse va mal, que ça on l'entend tous les jours, que les journaux s'effondrent, qu'on n'arrive plus à les financer, ben moi je vais vous raconter donc l'histoire, enfin je viens de vous raconter l'histoire d'un journal qui va très très bien, et tout en étant très indépendant, et qui va même très très bien, puisque je vais vous donner les chiffres et la situation du Diplo à aujourd'hui. Alors, d'après vous, avant ça, je vais vous poser une question. D'après vous, quel est le journal qui est le plus diffusé dans le monde ?
Courrier international ?
Courrier international.
Financial
Times ? Le journal français, pardon.
Ah.
Le journal français le plus diffusé. Donc le Courrier international, on note. Le Figaro.
L'Équipe.
L'Équipe. Vous pouvez continuer, la bonne réponse n'a pas encore été donnée.
Le Monde Diplo.
Le Monde et le Diplo.
Non.
Alors,
le quotidien.
Non, le Diplo.
C'est le Diplo.
Alors, rassurez-vous, on a. Ouais.
Quand vous parlez de sa diffusion dans le monde, il est entièrement et toujours diffusé en français.
Non, alors, justement, il y a 30 éditions.
Oui, c'est ça.
Il y a 20 langues. Il y a 20 langues. Voilà. Alors, rassurez-vous, mais bravo pour vous, madame, on a posé la question, on s'est amusé avec un micro et une caméra, on est allé poser la question à des grands journalistes, Yvan Levaille, ils ont fait les trois mêmes réponses que... Donc les gens de la profession ne savent pas que c'est le Diplo qui est le journal le plus diffusé dans le monde. Et effectivement, donc, il est présent dans 91 pays. Il y a 42 éditions internationales qui sont traduites dans 20 langues. 36 sont imprimées et 6 sont électroniques. Alors si on fait le total des 36 éditions internationales imprimées plus l'édition française... on arrive à une diffusion chaque mois de 2 400 000 exemplaires vendus.
C'est impressionnant. Une question.
Ouais.
Vous êtes toujours dans le groupe Le Monde, vous dites ?
Oui, on est toujours.
Et hein. Le Monde, il appartient à qui par rapport au tableau là ?
Si. Donc il y a Mathieu Pigas, Jacques Berger, c'est Jacques Berger Xavier Niel. Hein,
et vous arrivez
Mathieu Pigas. Pierre Berger.
Et vous arrivez à écrire ce que vous voulez. Ils n'interviennent pas comme ils font d'habitude.
Non. Puisqu'on est maintenant totalement indépendant. Quelle est la situation financière aujourd'hui du Diplo ? Vous allez voir les chiffres. De toute façon, on les publie, hein, donc il n'y a aucun secret. Donc les derniers chiffres connus du Diplo, donc c'était en 2015, hein, l'exercice 2015 est bouclé, pas 2016 encore. Donc il est de 11 millions et demi, soit une progression de 7% par rapport à 2014. Donc là où toute la presse est en train de s'effondrer, nous notre chiffre d'affaires progresse de 7%. À telle enseigne que le résultat net d'exploitation... il est de 1,2 million, donc quand Pierre et Jocelyne disaient donc un journal est parfaitement viable, voilà, donc notre résultat net a été de 1,2 million après amortissement qui a été de 500, amortissement et provision qui a été de 450 000 euros. Et là également, quelque chose qui trouble énormément la profession, c'est que nos ressources publicitaires se sont élevées en 2015 à 87 000 euros. Alors faites le calcul, c'est 1,8% quand on le compare au chiffre des ventes du journal, ou si on le compare au chiffre d'affaires total, c'est 0,8%. Et nous, l'équipe du Diplo et les amis du Diplo, on les aide beaucoup. Notre challenge, c'est d'être toujours en dessous de 2%. Quand on est en dessous de 2% du chiffre d'affaires, on est extrêmement content. Parce que là aussi, c'est une manière d'être indépendant. Et là, avec le monde commercial et le monde industriel. C'est-à-dire que il ne peut pas nous arriver la même aventure que Libération quand il a titré Casse-toi, sale con, riche con, pardon, ou LVMH, donc a retiré tout son budget publicitaire de Libération, et là, ça a fait très très mal pour eux. Et ça a coûté d'ailleurs la place à Demorand. Donc voilà, nous, on peut dire ce qu'on veut sur n'importe quel industriel, n'importe quel banquier, etc. Donc on ne dépend pas de ces gens. Alors, la vente au numéro, alors ce que je vous disais, hein, alors que la vente au numéro de la quasi-totalité des organes de presse recule de façon marquée depuis des années, alors là, le Diplo s'inscrit en rupture totale avec cette tendance dominante, puisque la progression en 2015 a été de 19,2%. Donc, la vente en kiosque. Hein. Alors, les abonnements, c'est pareil, on a une progression de 15%, et avec une très très forte proportion de relevés automatiques, ce qui fait une fidélisation plus forte. C'est que quand on fait des relevés automatiques, bon, on reste beaucoup plus fidèle à un journal, parce que peut-être qu'on oublie, enfin, il n'y a pas la déperdition quand il faut renouveler l'abonnement. On a également aussi ouvert nos archives, parce que un jour d'ailleurs j'intervenais dans une école de journalistes, et il y a un étudiant qui a eu cette phrase absolument extraordinaire, qui a dit « Ce qu'il y a de bien avec le monde diplomatique, c'est que vos articles n'ont pas de date de péremption. » Voilà. Et donc là aussi il y a une explication sur le fait que on a mis en ligne nos archives, elles sont maintenant accessibles. Donc depuis la création du journal, donc depuis 1954 jusqu'à aujourd'hui, vous avez accès, si vous êtes abonné, ou si vous voulez simplement un abonnement d'ailleurs aux archives, vous pouvez prendre qu'un abonnement aux archives. Et là aussi, on a fait ça depuis très peu de temps, et la progression, alors c'est un produit qui est récent, hein, donc la progression, elle est forte. C'est une partie de l'explication, mais il n'en demeure pas moins que d'une année sur l'autre, la progression a été de 58% d'abonnement à nos archives. Depuis 2 ans, on bénéficie également des aides à la presse. Alors là aussi, c'était une question de principe. Depuis la création du journal, on n'avait jamais réussi à obtenir d'aide à la presse de la part de l'État. Et donc on a tous les ans, on demandait à avoir une aide à la presse. Et jusqu'à ces 2 dernières années, on n'avait jamais réussi à obtenir, sauf donc l'année dernière et cette année. Et on a obtenu, donc notez bien ce chiffre, 314 000 euros. Et encore, ça a été associé à un travail, puisqu'on doit faire pour la Fédération de France, enfin je ne sais plus, tout un travail de traduction. Et c'est quand ce travail de traduction sera fait qu'on aura l'aide à la presse. Il y a des gens pour qui c'est plus facile. Je prends le cas, puisqu'on parlait de Libération, qui appartient donc à Drahi, hein, Patrick Drahi, vous connaissez. Hein, c'est la 9e fortune de France. C'est le patron de SFR. Bah, lui, ses aides à la presse, et là ça remonte à de nombreuses années, mais en 2015, il a touché, je vais être précis, hein, 9 499 414 euros. Vous le rapprochez aux 314 000 que le Monde Diplo a reçu. Alors, mais il y a plus fort que Patrick Drahi, il y a Bernard Arnault, vous savez, le copain de François Ruffin. Avec Aujourd'hui en France. Donc Bernard Arnault, je le rappelle, hein, c'est la première ou deuxième fortune de France, ça dépend comment on compte. Hein. Et lui, donc pour Aujourd'hui en France, il a touché 7 770 562 euros. Voilà, et je pense qu'on doit le retrouver, oui, avec les Échos. Vous savez, c'est le journal qui veut moins d'État, qui n'aime pas les assister, etc. Ben, là, quand même, il touche 1 643 837 euros de la part de l'État. Voilà, en ce qui concerne les aides à la presse. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces bons résultats? C'est pas parce qu'on est un mensuel et que le Monde est un quotidien. Je pense que le contenu me paraît essentiel. Et encore une fois, on a compris qu'on avait la bonne stratégie. Et pour le coup, c'est Libération, encore une fois, qui nous a fait prendre conscience que on allait dans le bon sens. C'est une publicité donc de Libé qui disait, donc là je prends mes notes pour être précis, donc ne pas déformer leur slogan. Donc Libé disait, dans un monde qui va de plus en plus vite, nous avons décidé d'aller encore plus vite. Et là, nous, on a compris qu'il fallait tout faire pour ralentir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec le monde diplomatique, on s'arrête et on réfléchit. Donc, je pense qu'au moment de la vitesse, du ragot, du coup de gueule médiatisé de l'à peu près, répond à des impératifs commerciaux et sert des intérêts industriels. Le diplôme, lui, s'adresse à des lecteurs, qui réclament du recul, qui en ont assez d'être bombardés d'informations sans importance et de débats confectionnés de toutes pièces par les médias. Hein, quand on entend samedi matin Laurent Geoffrin avec toujours les deux mêmes, et qui sont d'accord sur tout d'ailleurs en général, donc on voit un peu la puissance du débat. Donc voilà, donc le succès du journal s'explique comme celle-là, c'est que c'est un journal qui s'adresse à l'intelligence de ses lecteurs et qui a surtout donc une indépendance absolument totale qui lui permet justement de traiter toutes les informations sans aucune censure. Chez nous, les journalistes disent qu'ils ne conçoivent pas leur métier sans être des journalistes engagés. Peut changer à certains autres journalistes qui sont là, effectivement, pour défendre des intérêts particuliers. Alors, quelles sont les évolutions significatives du monde diplomatique? Il y a trois ou quatre mois, on a tenté quelque chose, on a fait appel à deux comédiens qui ont enregistré 10 articles d'abord, et vous pouvez podcaster ces articles qui sont lus par les deux comédiens le même jour de parution que le Monde diplomatique. C'est-à-dire les enregistrements sont disponibles en même temps. Alors, on a fait appel à deux comédiens, donc il y a eu un homme et une femme, je vais essayer. Oui, Isabelle Rougerie et Arnaud Romain. Bon, ils sont pas très connus, mais leur métier, c'est quand même d'être. C'est des acteurs de théâtre, des comédiens de théâtre. Donc ce n'est pas une lecture, c'est plutôt une mise en perspective, c'est une mise en dimension de l'article. Et ça, c'est très agréable, et l'article ne perd pas dans sa compréhension et dans son propos. Le propos reste celui que le journaliste a voulu, mais il y a une âme supplémentaire qui est donnée. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure à monsieur du Dauphiné Libéré, Moi, je fais beaucoup de cuisine, je passe beaucoup de temps dans ma cuisine, et j'ai commencé donc à les podcaster et à les écouter pendant que je cuisinais. Je peux vous dire que...
Les plats sont réussis.
Exactement. Je fais une bien meilleure cuisine depuis. Et c'est très très agréable, et ça passe très très bien. Voilà. Et là aussi, on est victime de notre succès, puisqu'on fait le double des objectifs qu'on s'était fixés en matière de téléchargement. Je ne sais pas si j'ai les chiffres, mais je pense qu'on avait prévu 100 000 téléchargements par mois, et on est à maintenant 200 000 téléchargements par mois. Je ne sais pas si les chiffres sont bons. Là. Donc, à telle enseigne qu'on a décidé de recruter toute une équipe de comédiens, et c'est l'ensemble du journal qui va être téléchargeable audio tous les mois. Alors, c'est un service qui est accessible aux abonnés. Hein. Donc, c'est pas, si vous prenez votre diplôme au kiosque, vous n'avez pas accès, il faut être abonné pour pouvoir accéder à ce service. Mais si vous êtes abonné, il est gratuit. Alors ce sera la totalité des articles. Hein. Il y a un certain nombre de choses qui pourront pas. La publicité, par exemple, ne sera pas lue par un comédien. L'ours, vous savez ce que c'est, l'ours. Hein. Donc ce ne sera pas lu par un comédien. Il n'y aura que les articles.
Vous avez un abonnement ?
Oui, vous prenez un abonnement papier ou un abonnement média. Le travail qu'a fait le journaliste qui t'a mis dans son écriture n'est pas perdu par l'enregistrement de l'audio. On retrouve, enfin, le, ce qui caractérise le travail des journalistes du monde diplomatique, c'est qu'ils essayent de rendre intéressant la complexité. Eh bien, on retrouve ces caractéristiques-là dans les enregistrements audio. Enfin, c'est assez étonnant, enfin, c'est une expérience assez étonnante, parce que c'est tout à fait complémentaire. Parce que les articles que j'ai écoutés en faisant ma cuisine, je les relis après. Et effectivement, on les revoit d'une façon différente. Mais si je n'ai pas le temps de le relire, j'ai pas trop perdu, quoi. Donc j'ai quand même la substance de l'article. C'est vraiment très, très intéressant.
Juste une question. Le nombre de ventes en France.
Ouais.
Par rapport aux ventes à l'international, parce que vous avez dit 2 millions, 400 000.
Ouais. Et en France, c'est 156 000 exemplaires vendus en France, dont 76% par les abonnés. Donc, il y a la toute nouvelle plaquette, elle est toute chaude, je l'ai reçue tout à l'heure. Elles sont à l'entrée.
Ça veut dire 15 fois plus à l'international.
Ouais, ouais.
Oui. D'accord. 15 fois 15. Ouais.
C'est ce qui fait aussi le succès et la bonne santé du monde diplomatique, c'est sa diffusion à l'international aussi.
Ouais, alors, moi, les chiffres que je vous ai cités, c'est l'ensemble du monde diplomatique avec ses... Alors, comment on peut les appeler ? Avec ses partenaires. Là, vous trouverez les chiffres simplement du monde diplomatique France.
Ah.
Alors... Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il est présent dans 91 pays. Il y a 42 éditions internationales. C'est pas une multinationale, le monde diplomatique, avec une maison mère et puis plein de filiales. Sur les 2,4 millions, c'est les autres organes de presse avec lesquels on a passé des accords et qui utilisent le titre, le monde diplomatique, qui peuvent d'ailleurs, à partir du moment où les accords ont été signés, ils récupèrent les articles du monde diplomatique, ils peuvent les traduire ou les laisser en français. Ça regroupe ça, les 2,4 millions exemplaires. Hein. C'est tous les contrats qu'on a passés avec tous les 42 organes de presse qui sont diffusés dans le monde. Hein. On a des choses assez étonnantes. Par exemple, on organise tous les ans un concours étudiant. Donc on s'adresse aux écoles de journalisme de France. Et tous les ans, au mois de septembre, l'étudiant qui a gagné le concours voit son article paraître dans le journal Le Monde, édition française. Et on s'aperçoit que systématiquement, cet article-là est repris par à peu près la moitié des éditions internationales. Ce qui fait que quand l'année suivante, on va revoir les étudiants, on dit, vous voyez, si vous gagnez, alors il y avait du coréen, du finnois, des pays du Maghreb, enfin, c'était... Donc on les imprime à chaque fois. Et donc on a pour l'étudiant une traduction dans une dizaine de langues pour son article. Mais là, encore une fois, hein, on passe des accords avec des organes de presse. Alors, bien sûr, on a un droit de regard, hein, parce qu'il ne faudrait pas... Et d'ailleurs, des fois, on a dû interrompre des contrats avec des journalistes, avec des journaux sur lesquels on s'était trompé. Hein. Donc, on a un droit de regard, mais là aussi, je dirais, une fois que la confiance est établie, ces organes de presse étrangères vivent leur vie... Ils mettent le monde diplomatique, ils le traduisent, ils ont une autre type. Quand on ne considère pas l'information comme une marchandise, mais comme un bien public, et qu'on a la prétention, effectivement, de s'adresser à des lecteurs parce qu'on est un pilier de la République, et parce qu'on a des lecteurs et des citoyens éclairés, c'est comme ça qu'on fait fonctionner la République. Immédiatement, la démocratie, immédiatement, on a une adhésion de la part des gens. C'est comme ça. Alors, on est en 98, on est en septembre 98, et Ignacio Ramonet, qui était le directeur de l'époque, donc comme tous les directeurs pour le monde diplomatique, fait son édito, et le titre de cet édito, c'est « Désarmer les marchés ». Et il a l'idée, complètement farfelue, de dire « si on ne peut pas faire confiance... aux politiques pour reprendre la main sur la finance, il n'y a que les citoyens qui peuvent reprendre de la finance. Et imaginons une association de citoyens qui donc militeraient pour reprendre la main sur la finance, et ils voulaient quelque chose d'assez musclé, d'assez punchy. C'est pour ça qu'il a travaillé sur l'acronyme ATTAC. Et donc, mais lui, il lance cette idée complètement dans le vide, quoi. Il avait absolument pas.
Hein? Il s'en fait un tabac.
Oui, parce que dans la semaine, il y a des lettres qui sont arrivées au bureau du monde diplomatique en disant, ben voilà, nous on voudrait adhérer à l'association, etc. Alors qu'il n'y avait pas d'association, il y avait rien du tout. Et donc c'est parti de là. Donc, et Bernard Cassen a été le premier président d'ATTAC. Il est maintenant président d'honneur et il n'est plus en activité au diplôme, mais je peux vous dire qu'il passe tous les jours, quoi. Et donc le directeur général aujourd'hui, c'est Serge Halimi. J'aurais dû mettre son nom, hein. Serge Halimi. Depuis, c'est son deuxième mandat, donc 2008. Depuis 2008. Alors, vous voyez, là aussi, les statuts qu'on a passés avec le journal Le Monde, dans les statuts, il est prévu que le directeur est proposé par le personnel du monde diplomatique et ensuite validé par les amis du monde diplomatique. Et le monde n'a aucun pouvoir pour pouvoir nommer un directeur. Il y a toute une réflexion et ça nous préoccupe beaucoup parce que on peut pas se satisfaire d'un succès comme celui-là, parce que de quoi on parle là? On parle d'une démocratie qui se porte mal quand on n'a plus une presse qui informe ses citoyens. On peut s'interroger sur la santé de notre démocratie. Donc on va d'ailleurs jusqu'à essayer le travail qu'a fait Pierre Rimbert. Donc Pierre Rimbert est un des directeurs adjoints du monde diplomatique à réfléchir à comment on pourrait financer la presse autrement que par des milliardaires, des banquiers et par la publicité. Et si on considère que la presse, c'est un bien commun, c'est un bien public, on peut faire appel à l'impôt. De toute façon, quand vous achetez le Nouvel Obs ou l'Expansion, vous le payez à travers la bouteille d'eau qui est en publicité, etc. Donc, de toute façon, publicité payée ou impôt payé, au final, c'est pas la même presse qui sort. Et je sais que Pierre Rimbert, comme on est en campagne électorale, a demandé à rencontrer les candidats à l'élection présidentielle. Bon, je ne sais pas s'il a un grand succès. Je sais qu'il a été reçu par Jean-Luc Mélenchon. Mais quand j'ai entendu la personne de son équipe qui était en charge des médias, je me suis dit que le message n'était pas passé, quoi. Donc, alors c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon qui fait de la rétention, hein, mais en tout cas, on est extrêmement préoccupé de ce côté-là. Alors, la deuxième réponse que je pourrais vous faire, les chiffres que je vous ai donnés, c'est des tendances qui sont longues, enfin qui remontent à loin. Je peux vous dire qu'à aujourd'hui, c'est le 36e mois où les ventes du mois sont supérieures aux ventes du mois de l'année précédente, sans un accident. Ou un mois, pouf, on s'est retrouvé en dessous. Ça fait 36 mois que tous les ans, enfin tous les mois, on progresse par rapport au mois de l'année précédente. Alors, on pensait avoir un lectorat qui avait l'âge du diplôme, quoi. Donc 1954, 60 ans. On s'aperçoit notre lectorat se renouvelle énormément. On a fêté les 20 ans de l'association des amis du monde diplomatique. On a fait ça au 104 à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un lieu extraordinaire. Hein. C'est vraiment. On occupait un amphi de de 600 personnes, 600 places. Ça, c'était par inscription, et donc on demandait aux gens de se présenter, de donner leur date de naissance. Il y avait un tiers, c'était des jeunes entre 20 et 25 ans.